Bon, donc on est, je ne sais même plus quel mois on a commencé cette étude sur le fait d'être rempli ou contrôlé, soumis au Saint-Esprit. On avait vu les différentes choses avec les tempéraments, on a vu les deux versets où, qui nous montrent également ce qui empêche le chrétien d'être rempli, contrôlé par le Saint-Esprit, celui de d'attrister le Saint-Esprit, où il nous met en garde, et l'autre qu'on est en train de voir, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et on avait vu qu'entre les différentes choses qu'on pourrait mentionner, c'est la peur, l'un des facteurs dominants qui peut nous empêcher ou qui nous pousse à éteindre le Saint-Esprit en nous, à diminuer, pas juste sa présence, mais son influence. Quand on se laisse contrôler par la peur, on ne peut plus être en même temps être contrôlé par le Saint-Esprit. Et il faut qu'on choisisse qui va nous contrôler. Est-ce que je vais me laisser aller à cette peur et à cette crainte, ou est-ce que je vais faire confiance dans ce que le Saint-Esprit est en train de me rappeler des vérités de Dieu, de la personne de Dieu, et le tout autour de ce passage qui nous enseigne en Galates 5 de le fruit de l'Esprit, ce fruit des choses qu'il essaie, qu'il désire faire mûrir dans chacun de ses enfants. Et on ne peut pas être contrôlé par la peur et en même temps être rempli d'amour et de joie et de patience et de maîtrise de soi et de bonté, etc. Et dernièrement, on était en train de voir pourquoi est-ce que même en tant que chrétien, on a peur. Et on a vu qu'il y a pas mal de choses différentes. Et on avait vu la dernière fois, la semaine dernière, entre autres, il y avait la colère. Mais aussi, on avait terminé avec le sujet du péché. On avait terminé avec ce dernier verset qui. Pardon. Dernier verset qu'on avait vu ensemble, pardon, en 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et on ne peut pas avoir les deux ensemble. On ne peut pas avoir cette crainte dans notre cœur et l'amour dans notre cœur en même temps. Et la crainte n'est pas dans l'amour. Et on va en fait choisir. Qu'est-ce que je veux craindre? Est-ce que je veux craindre les circonstances, ou est-ce que je veux avoir cette crainte respectueuse de la personne de Dieu, de ce que lui me promet? Et si je choisis d'aimer, comme on dit, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, si c'est le cas, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, ça ne laisse plus de place à la peur et à la crainte. Il faut que je choisisse l'un ou l'autre. Et la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour banni, parfait banni. On avait fait ce verset sous le contexte que le péché en nous va produire la crainte et la peur. On avait parlé du tout premier péché avec Adam et Ève, et la première réaction, c'est on s'est caché parce qu'on avait peur. Et c'était la première réaction quand Dieu est venu pour leur parler, il dit, où es-tu? C'était la première réaction, et c'est la réaction que le péché va toujours apporter depuis cette toute première réaction, c'est la peur et la crainte chez le croyant. Mais si on comprend bien l'amour de Dieu et sa promesse de vouloir pardonner, sa promesse de vouloir réconcilier, pas parce qu'on le mérite, mais à cause de qui il est, ça doit chasser et bannir cette crainte en nous. Mais cela va supposer également cette autre chose qui va produire la crainte, la peur en nous, c'est justement le manque de foi. Si je peux savoir ces choses, je sais ces vérités, mais que je n'y crois pas, et que j'ajoute un mais si, mais je sais que Dieu dit mais, et que j'ai ce manque de foi en moi, ça ne va pas faire l'effet que ça doit faire de chasser la crainte. Le manque de foi ne va jamais encourager la confiance, c'est illogique. Et donc elle va toujours attiser justement la peur qui veut déjà être enracinée en moi. Et quand nous parlons spécifiquement de la peur à cause d'un manque de confiance, cette peur peut généralement être regroupée en deux domaines précis. La peur concernant les péchés du passé et la peur concernant l'avenir incertain. La peur concernant les péchés du passé, malheureusement, est un fléau qui accable beaucoup de chrétiens, qui ne devraient pas. Des péchés qu'ils ont déjà confessés, mais qui continuent à les peser quand même. Et ce sentiment de culpabilité, qui fait bien plus que de les rendre coupables, mais qui, à force, vont même créer cette peur. Cette peur qui, comme on avait vu auparavant, vont ouvrir les portes pour éteindre le Saint-Esprit en nous, atténuer son influence et sa maîtrise qu'il veut avoir en nous. Lorsqu'un chrétien ne sait pas, ne comprend pas ou n'accepte pas que la Bible enseigne sur le péché confessé et pardonné, il est normal de voir la crainte, la peur et le doute s'installer dans son cœur. C'est un processus tout à fait normal qui arrive. Il a du mal à croire des versets tels qu'on a déjà cités à maintes reprises en 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Souvent, on s'arrête juste à « il est juste pour nous les pardonner » et c'est déjà formidable. Mais il ne faut pas oublier la deuxième partie aussi qui est tout aussi importante. Il est également fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, de les laver. Dieu ne se satisfait pas de juste dire « je te pardonne ». C'est un acte que lui veut faire, mais il veut également nous purifier, enlever cette saleté, enlever même, je ne vais pas dire les conséquences, parce que parfois on doit vivre avec certaines conséquences, mais les conséquences de la culpabilité de ce péché. Parce que si on reprend l'exemple d'Adam et Ève, il n'a pas enlevé les conséquences, mais il a bien voulu enlever la culpabilité qui est venue avec. Il n'a pas vécu le restant de leur vie en se sentant coupable, dit « je suis un moins que rien, je suis… » etc. Non, ils ont pu vraiment, la Bible dit, il veut que pas seulement vous donner une vie, mais une vie en abondance. Et c'est un acte que Dieu veut faire et qu'il doit faire pour nous aider à avoir cette communion avec lui. Dieu ne veut pas avoir une communion avec l'un de ses enfants qui est constamment en train d'être triste pour des péchés passés, déjà pardonnés, que lui a déjà également purifiés. De vouloir ou de croire que nous pouvons avoir une communion avec Dieu sans avoir été purifiés par lui de tout péché, excusez la comparaison, mais c'est comme si on désire marcher sous la pluie sans parapluie et ne pas être mouillé. Je ne peux pas. Et je ne peux pas avoir une communion pleine avec le Seigneur sans le laisser me purifier de tout péché non plus. Ce n'est pas quelque chose que je puisse faire, mais c'est quelque chose que lui désire faire pour nous. Un pécheur, je sais que ça c'est une image du fils prodigue, mais ce n'est pas grave. Un pécheur peut venir devant Dieu étant sale, étant rempli de péchés, et on doit tous venir devant lui de la sorte pour être sauvés déjà. Quand on est venu à Dieu pour accepter le salut, on n'était pas autre chose que sale et méprisable et rempli de péchés. Et il ne nous a pas rejetés. Il nous a reçus à bras ouverts. Et il nous a pardonnés. Et il nous a lavés. Et il nous a purifiés. Et il a fait de nous une nouvelle créature. Il a dit, depuis ce moment-là, je n'arrête pas de faire encore et toujours la même chose. Je ne redonne pas le salut, mais je te reçois à chaque fois les bras ouverts. Sans condition, si ce n'est celui que tu admettes, que tu te repentes, pour que je puisse te pardonner, pour que je puisse te purifier, pour que je puisse réconcilier la communion que nous avions avant, qu'on puisse l'avoir une fois de nouveau. C'est pour ça que ça ne m'a pas gêné d'utiliser l'image du fils prodigue, parce que c'est exactement ce que cette parabole, ce père a fait. Et Dieu désire, il désire cette communion. Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus pour nous prouver qu'il désire avoir une communion avec ses enfants? Sans parler de tout ce qu'il a fait et permis et voulu à travers Christ et sa naissance et sa vie et sa mort et sa résurrection, mais même depuis, de ce que Dieu désire, pas seulement nous sauver de tout péché, mais qu'il désire que nous ayons une communion avec lui en attendant que nous soyons en présence avec lui au ciel. Il nous promet de restaurer notre communion en effaçant nos péchés et en nous lavant de tout péché, en nous purifiant de toute iniquité. Il faut qu'on arrive à réellement comprendre aussi possible que nous le pouvons avec notre entendement toute la sainteté, la perfection de Dieu et l'horreur qu'il a pour le péché, mais que cela n'empêche pas qu'on s'approche de lui avec notre péché pour que lui puisse, parce qu'il veut, nous l'enlever, nous l'effacer. Parce que n'est-ce pas ce que ce mot purifier veut dire? Ce qui veut vraiment dire de rendre propre, hein, de purger, de purifier, de rendre pur, d'enlever la saleté qui se trouve là, et que c'est cette saleté qui l'empêche d'être pur. Donc j'enlève cette saleté, parce qu'une fois que c'est enlevé, tu deviens pur. Ça rejoint cette idée que Dieu nous donne de la purification de l'or et de l'argent, qu'on le met sous le feu et sous les flammes pour faire remonter à la surface les saletés, l'impureté, et on le ramasse pour avoir de l'argent et de l'or pur. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent aller dans les mauvaises et les fausses pensées et laissent les péchés du passé, les péchés pourtant déjà confessés, et donc pardonnés, et donc purifiés, revenir les hanter et même les abattre. Alors que Dieu dit, mais que dois-je faire de plus pour te montrer que ces péchés ont été réglés déjà? Il se focalise, quand on fait cela, on se focalise sur les mauvaises actions, les mauvais choix du passé, au lieu de se focaliser sur la grâce et la miséricorde que Dieu nous a donnée en bien voulant nous pardonner, nous purifier. Ce passage en 1 Jean 1,9 nous dit, il nous pardonne pourquoi? Parce qu'on le mérite? Parce qu'on a suivi les étapes nécessaires pour qu'il nous pardonne? Non, l'accent est parce que lui est fidèle et juste pour nous pardonner. Et parce que lui est fidèle et juste pour nous purifier. Pas parce qu'on le mérite ou pas parce qu'on a suivi les étapes et le processus et le rituel, mais parce que il faut qu'on soit obéissant, il faut qu'on confesse, il faut qu'on soit repentant pour qu'on ouvre la porte et lui donne l'accès de pouvoir faire son travail. Mais pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il désire cette communion. J'ai lu l'histoire d'un pasteur que c'est une histoire non inhabituelle que j'imagine que pratiquement tous les pasteurs peuvent dire. Un homme est venu le voir dans son bureau et qui était abattu par un péché qu'il avait commis. Et on peut comprendre que le pasteur lui demande s'il a pris le temps de confesser ce péché avec une vraie repentance, de ne pas vouloir recommencer. Et cet homme qui parlait avec son pasteur, il dit « Oui, je l'ai fait plus d'un millier de fois. » Et à cela, le pasteur lui a dit, il l'a interrompu, il dit « Tu l'as fait 999 fois de trop. » Le mieux, c'est que tu le confesses qu'une fois et que tu, 999 fois, tu puisses le remercier après, si tu veux. Mais tu n'as pas besoin de le confesser 1000 fois. Une fois suffit. Et la seule fois que Dieu et le Saint-Esprit va rappeler à un chrétien un péché passé, c'est parce qu'il n'a pas encore pris le temps de l'admettre et de le confesser. Mais une fois confessé, c'est le rôle du chrétien de placer sa foi en Dieu, que lui est fidèle et juste pour pardonner, pour restaurer, pour purifier. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous rappeler de nos défauts et nos manquements passés si on l'a confessé déjà. Et voilà. Vous connaissez peut-être le passage en Ésaïe, chapitre 43, verset 25, il nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Parce que je le mérite? Non, pour l'amour de moi. Parce que moi, je désire cette communion avec toi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et on se dit mais comment est-ce que Dieu peut, lui qui sait toutes choses, lui qui est éternel, comment est-ce que lui ne peut plus se souvenir? Parce qu'il a choisi de ne plus faire. Mais le fait est, ce n'est pas à moi de questionner ce que Dieu dit comme étant vrai. Ce n'est pas parce que ma faible entendement et compréhension a du mal à comprendre comment Dieu peut, ça ne devrait jamais mettre en doute que Dieu va. L'autre passage, le chapitre suivant, Ésaïe chapitre 44, verset 22, il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Et ça, je crois que c'est la manière que Dieu opère pour chacun de ses enfants. Pour le peuple d'Israël, oui, mais aussi pour chacun de ses enfants, pour tout chrétien qui vienne confesser, se repentir. Il dit « Je les efface. » Comme un nuage, elle n'est plus, tu ne peux même plus savoir où elle était. Les personnes qui ne l'ont pas vue présente, ça ne laisse pas de traces. Ils ne peuvent pas dire, ah là, il y avait un nuage, ça avait elle avait cette forme-là. Bon, hier, je peux pas vous dire quelles étaient les formes de certains nuages dans le ciel en regardant dans le ciel aujourd'hui, où elles étaient, ce qu'elles étaient. Elles ne sont plus. Et il dit, c'est comme ça, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Seule notre incrédulité, notre manque de foi remettra en doute ce que Dieu déclare comme un fait. Dieu le déclare. Il ne met aucune place pour le doute sur des questions ou des oui, mais moi, ma situation. Non. Dieu dit, voici qui je suis, voici ce que je désire, ce que j'ai décidé de ce que je vais faire avec tes péchés. C'est à toi de choix. Tu choisis de me croire ou non. Ne soyons pas étonnés de voir la crainte et la peur revenir dans nos pensées, dans nos cœurs, quand nous doutons du pardon de Dieu pour nos péchés confessés et pardonnés. Mais on peut terminer également quand même avec l'autre. C'est la peur concernant l'avenir. Sur l'avenir incertain, parce que qui ne se soucie pas de l'avenir de temps en temps, même parmi les chrétiens? D'ailleurs, ça peut être un souci pour notre avenir, autant que pour l'avenir de nos enfants, ou celui de l'Église, ou d'un être qui nous est cher. C'est quand même la peur d'un avenir, ou d'un avenir incertain. Ça reste la même chose. Une crainte qui peut éteindre le Saint-Esprit dans notre vie si on ne change rien. Et la personne qui s'inquiète beaucoup va souvent rater les bénédictions qui sont juste en face d'elle. Parce qu'ils ne sont pas en train de regarder, de voir la bénédiction, ils sont en train de se focaliser sur ce qui leur font peur. La personne qui s'inquiète régulièrement de ce qui va se passer demain a du mal à mettre en pratique des passages tels que Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais j'étais en train de regarder tout à l'heure, une fois de plus, juste le contexte de ce passage. Parce qu'on cite ce verset souvent, et à raison. C'est un merveilleux verset, avec une merveilleuse vérité. Mais les tout premiers passages, les tout premiers versets de ce psaume 118, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il commence tout de suite. On a toutes les raisons de le louer, de le glorifier, peu importe notre situation, notre circonstance, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, mais là on peut le remplacer, que tout chrétien dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Et là, il continue, verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Cela aussi, on cite ce verset parfois juste tout seul, parce que c'est un merveilleux verset. Mais voyons quand même le contexte dans lequel il est. Je ne crains rien parce que sa miséricorde durera toujours. Mieux vaut chercher, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. J'ai un avenir qui me fait peur, des choses du demain et du lendemain qui me causent certaines questions et incertitudes. Mais mon refuge se trouve quoi, dans les réponses que je peux trouver pour calmer mes craintes de demain ou dans la personne de Dieu? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Et il continue, je n'ai pas le temps de voir, mais vous pouvez relire ce chapitre 118 pour vous-même. Et c'est bien plus loin qu'on a ce verset 24. Hein. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, et dans le contexte, on peut voir que il ne met pas de conditions. C'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a faite. Si elle est bonne pour vous, alors elle est un sujet de joie. Si vous avez une réponse à vos prières, alors c'est un sujet d'allégresse. Si les choses vont comme vous aimez, alors vous avez raison de vous réjouir. Non, la raison qu'on puisse se réjouir, c'est que aujourd'hui c'est une journée que le Seigneur a faite et que c'est lui qui est en contrôle et sa miséricorde durera toujours et je peux me réjouir, peu importe les circonstances, peu importe les peurs du lendemain, les questions qui restent encore sans réponse, des choses qu'on a besoin pour demain ou après-demain ou le mois d'après. Je peux me réjouir aujourd'hui. Et ma manque de foi dans la personne de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, vont m'empêcher de regarder à ses promesses comme étant une vérité sur laquelle je puisse m'appuyer, dans laquelle je puisse trouver un vrai refuge, parce que je suis focalisé sur oui, mais j'ai ce problème, il me faut une réponse. Il ne dit pas qu'on doit les ignorer, il ne dit pas qu'on doit faire comme si elles ne sont pas là, mais on ne doit pas s'y focalisé tellement qu'on en oublie les promesses de Dieu, sa personne, et qu'il a promis de prendre soin de nous, qu'il a promis d'être, comme on a entendu tout à l'heure, d'être fidèle, qu'il a promis que tu ne mérites pas, mais ma grâce surabonde. Tu ne mérites pas, mais ma miséricorde durera toujours. Tu ne mérites pas, mais je désire, j'ai choisi de t'aimer, et je veux réconcilier, je veux pardonner, je veux pourvoir. Et parce qu'en relisant ce passage, je peux voir clairement la condition qui est donnée aujourd'hui et la journée que Dieu a faite. Ça, c'est un fait, on peut le nier. Mais qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie, bon, ça, c'est conditionnel. Si je décide, ça dépend si j'arrive à accepter ce que Dieu a permis dans cette journée et accepter que tout ce que Dieu permet est une bonne chose, qu'il désire l'utiliser pour mon bien. Il dit oui, mais ça c'est facile à dire quand ta santé va bien. Et c'est facile à dire quand tu n'as pas ce problème. Mais le problème c'est que ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que le Seigneur affirme. Ce n'est pas ma vérité. C'est ce que Dieu dit. C'est aujourd'hui la journée que moi j'ai faite, qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse, de joie et de louange. Peu importe ce que j'ai permis dans cette journée. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu ne va pas m'abandonner, surtout et encore moins le jour où j'en ai besoin le plus. Je sais que Dieu m'aime. Et même si cette journée peut me faire du mal, d'une façon ou d'une autre, peut m'apporter de la peine, Dieu peut et veut utiliser cette journée en bien. On connaît, on l'a récité maintes fois, Romains 8, 28, n'est-ce pas ? Pour tous ceux qui aiment Dieu, c'est la partie prédominante de ce verset. Toutes choses concourent au bien, ça, on veut s'accrocher à ça. Mais il faut qu'on fasse notre partie de tous ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si on doute de lui. On est obligé d'avoir placé notre foi en qui il est, dans ses promesses, si on l'aime. Et je ne peux pas dire à ma femme, Suzanne, je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Mais c'est ce qu'on fait envers Dieu si souvent.
Il faut c'est faire... une réalité, ça, excusez-moi. Mais bon nombre de...